Chapitre 23. Birkeli. Un vieux miroir magique que son arrière-grand-mère avait acheté à une gitane.
Hilde Møllerknag se réveilla dans sa chambre mansardée près de l'île Sand. Elle regarda sa montre. Il n'était que 6 heures. Pourtant, il faisait déjà jour. Une large bande de soleil inondait presque tout un pan de mur. Elle sauta du lit et courut à la fenêtre. En passant près de son bureau, elle arracha une page du petit calendrier. Jeudi 14 juin 1990. Elle froissa la feuille et la jeta à la corbeille. Elle lisait maintenant vendredi 15 juin 1990. Au mois de janvier déjà, elle avait écrit 15 ans sur cette page. Elle trouvait que cela tombait particulièrement bien. Qu'elle ait 15 ans, le 15. Cela n'arriverait qu'une fois dans sa vie. 15 ans. N'était-ce pas le premier jour de sa vie d'adulte? Il était hors de question de se recoucher un jour pareil. C'était d'ailleurs le dernier jour de classe avant les grandes vacances. Ils avaient tous rendez-vous à l'église à 1 heure. Mais surtout, dans 1 semaine, son père rentrerait du Liban. Il avait promis d'être là pour la Saint-Jean. Hilde regarda par la fenêtre le jardin qui descendait vers la jetée et le hangar à bateau en bois rouge. Le bateau n'était pas encore remis en état pour la saison, mais la vieille barque était amarrée sur le quai. Tiens, il ne fallait pas qu'elle oublie d'écoper après le déluge de la veille. Elle laissait son regard parcourir la baie quand lui revint à l'esprit qu'à l'âge de 6-7 ans, elle avait réussi à monter dans la barque et s'était éloignée à la rame sur le fjord. Elle était tombée à l'eau et parvenue, on ne sait trop par quel miracle, à regagner la rive. Trempée de la tête aux pieds, elle était rentrée à la maison en coupant par les buissons. Et quand elle avait atteint le jardin, elle avait aperçu sa mère qui courait au-devant d'elle. La barque et les rames avaient continué à dériver sur le fjord. Il lui arrivait encore de rêver à cette barque abandonnée sur le fjord. Cela l'avait terriblement marquée. Le jardin n'était pas particulièrement bien soigné, ni débordant de fleurs. Mais il était grand, et c'était celui de Hilde. Seul un pommier assez dégarni, et quelques framboisiers et groseilliers qui ne donnaient plus guère de fruits, avaient survécu aux rigueurs de l'hiver. Entourée de quelques rochers plats et de mauvaises herbes, la balancelle, perdue sur la pelouse râpée, se détachait dans la lumière du matin. Elle avait l'air encore plus misérable du fait qu'on avait rentré les coussins. Maman avait dû le faire tard dans la soirée, à l'annonce de l'orage. Tout le jardin était entouré de bouleaux, ce qui le protégeait des regards indiscrets. C'était pour cette raison que la propriété s'était autrefois appelée Birkeli, à l'ombre des bouleaux. C'est l'arrière-grand-père de Hilde qui avait construit cette maison à la fin du 19e siècle. Il avait été capitaine sur un des derniers grands voiliers. Aussi beaucoup de personnes connaissaient-elles encore cette demeure sous le nom de pavillon du capitaine. Ce matin, le jardin portait encore les traces du violent orage de la veille. Hilde s'était réveillée plusieurs fois à cause des coups de tonnerre, mais le ciel était à présent entièrement dégagé. L'air était si pur après ces pluies d'été. Il avait fait plutôt lourd et sec les dernières semaines. Les bouleaux avaient même marqué le coup, en laissant les pointes de leurs feuilles prendre une légère couleur jaune. Le monde semblait comme un sous-neuf, et Hilde sentait que l'orage l'avait comme lavé de toute son enfance. « Oui, cela fait mal quand les bourgeons éclosent », disait le début d'un célèbre poème suédois. À moins que ce ne fût un poème finlandais. Hilde se plaça devant le grand miroir en laiton qui lui venait de sa grand-mère. Est-ce qu'elle était belle? En tout cas, elle n'était pas laide. Oh, elle devait se situer dans la moyenne. Elle avait de longs cheveux blonds. Hilde avait cependant toujours pensé qu'ils auraient dû être soit plus clairs, soit plus foncés. Car entre les deux, ce n'était pas très intéressant. En revanche, elle avait des boucles souples, que lui enviaient nombre de ses amis qui tentaient vainement d'en obtenir avec force et bigoudi. Ses cheveux avaient toujours eu ce mouvement naturel. Et quels yeux verts, d'un beau vert intense. Comment peuvent-ils être aussi verts? se demandaient souvent ses oncles et tantes en se penchant sur elle. Hilde essayait de savoir si l'image que lui renvoyait le miroir était celle d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Elle conclut qu'elle n'était ni l'une ni l'autre. Son corps pouvait peut-être passer pour le corps d'une femme, mais son visage était encore trop lisse et trop rond. Il y avait quelque chose dans ce miroir qui lui faisait irrésistiblement penser à son père. On l'avait autrefois accroché dans l'atelier. L'atelier, c'était cette pièce au-dessus du hangar à bateau qui lui servait à la fois de bibliothèque, de boudoir et de bureau d'écrivain. Albert, comme l'appelait Hilde quand il était à la maison, avait toujours eu l'espoir d'écrire une grande œuvre un jour. Il faut dire qu'il avait commencé un roman, mais avait rapidement abandonné ce projet. Il avait malgré tout publié à intervalles réguliers des vers et quelques textes sur la vie le long de l'archipel dans un journal local. Et Hilde avait chaque fois éprouvé la même fierté en voyant son nom imprimé. Albert Knag. En tout cas, à l'île Sand, ce nom avait une résonance toute particulière. C'était également le nom de son arrière-grand-père. Ah, ce miroir! Il y a des années de cela, son père s'était amusé à lui faire remarquer qu'on pouvait cligner de l'œil à son image dans un miroir, mais qu'il était impossible de se voir cligner des deux yeux. Ce miroir en laiton constituait à sa connaissance la seule exception à cette règle. Car c'était un vieux miroir magique que son arrière-grand-mère avait acheté à une gitane juste après son mariage. Hilde avait eu beau essayer un bon moment, cela se révélait aussi difficile de se voir cligner des deux yeux que de fuir sa propre ombre. Elle avait fini par hériter de cet étrange miroir, mais il ne se passait pas de mois sans qu'elle fasse une nouvelle tentative. Pas étonnant qu'elle soit un peu pensive aujourd'hui. Pas étonnant non plus qu'elle ait envie de savoir qui elle était. 15 ans. Elle jeta enfin un regard sur sa table de nuit. Il y avait un gros paquet, emballé dans un beau papier bleu clair, avec un ruban de soie rouge autour. Ce devait être son cadeau d'anniversaire. Était-ce le cadeau? Ce fameux cadeau dont il avait été tellement question de manière détournée. Il y avait fait plusieurs fois allusion dans ses cartes du Liban. Mais ne s'était-il pas imposé une stricte censure? Le cadeau devait être quelque chose qui ne cesserait de grandir, avait-il écrit. Et il avait mentionné une jeune fille dont elle ferait bientôt la connaissance et à qui il avait envoyé le double de toutes ses cartes. Hilde avait bien essayé de faire parler sa mère, mais elle n'avait pas eu l'air d'être au courant. Le plus étrange, c'était cette allusion sur le fait que ce cadeau pourrait être partagé avec d'autres personnes. Ah, ce n'était pas pour rien qu'il travaillait pour les Nations Unies. Si son père avait bien une idée fixe, c'était que l'ONU devait exercer une responsabilité globale sur le monde entier. Si seulement les Nations Unies pouvaient rassembler tous les hommes, avait-il écrit dans une de ses cartes. Elle avait tellement envie d'ouvrir son cadeau avant que maman ne lui apporte son petit déjeuner au lit en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Elle devait en avoir le droit, sinon pourquoi l'aurait-on posé là? Hilde prit le gros paquet sur la table de nuit. Qu'il était lourd. Elle trouva une carte. « Pour tes 15 ans, Hilde, de la part de papa. » Elle s'assit sur le lit et défit délicatement le ruban de soie rouge avant de déplier le papier. C'était un grand classeur. Alors c'était ça, son cadeau. C'était ça dont il avait fait tout un plat, ce fameux cadeau qui ne cesserait de grandir et qu'elle allait pouvoir partager avec d'autres. Un bref coup d'œil lui permit de se rendre compte que le classeur était rempli de feuilles dactylographiées. Elle reconnut les caractères de la machine à écrire que son père avait emportée avec lui au Liban. Il ne lui avait quand même pas écrit tout un livre. Sur la première page, était écrit à la main
« Le monde de Sophie ».
Un peu plus bas, mais à la machine cette fois,
« Ce que le soleil est à la terre noire, la vraie clarté de l'esprit l'est aux hôtes de la terre. » N.F.S. Grundtvig.
Hilde tourna la page. En haut de la page suivante, commençait le premier chapitre intitulé
« Le jardin d'Éden ».
Elle s'installa confortablement dans son lit, appuya le classeur contre ses genoux et se mit à lire.
Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Yoron. Elles avaient parlé des robots. Pour Yoron, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'elle n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non?
Hilde continua à lire et bientôt oublia tout le reste, même son anniversaire. De temps en temps, une pensée venait interrompre le fil de la lecture. Est-ce que son père avait écrit un roman? S'était-il enfin attelé à son grand roman et l'avait-il terminé au Liban? Il s'était si souvent plaint des longues heures d'inaction là-bas. Sophie aussi voyageait à travers l'histoire du monde. Ce devait être elle, celle que son père voulait lui faire rencontrer.
Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors comme jamais auparavant quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. D'où vient le monde? À un moment donné, il a bien fallu que quelque chose surgisse du néant. Mais était-ce concevable? N'était-ce pas tout aussi impossible à imaginer que l'idée d'un monde qui aurait toujours existé?
Hilde tournait les pages les unes après les autres et sursauta quand elle arriva au passage où Sophie reçoit une carte postale du Liban adressée à Hilde Möller-Knag, aux bons soins de Sophie Amundsen, 3 Allée des Trèfles.
Cher Hilde, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes 15 ans. Comme tu sais, je tiens à te faire un cadeau qui te permette de grandir. Pardonne-moi si j'envoie la carte à Sophie. C'était plus commode comme ça. Je t'embrasse, ton papa.
Le petit malin. Hilde avait toujours su que son père avait plus d'un tour dans son sac. Mais aujourd'hui, il l'avait littéralement surprise au saut du lit. Et comment ? Au lieu de glisser la carte dans le paquet, il l'avait fait entrer dans la composition de son roman. Mais cette pauvre Sophie, il y avait de quoi être déboussolée.
Dans quel but un papa envoyait-il une carte d'anniversaire à l'adresse de Sophie alors qu'elle était visiblement destinée à quelqu'un d'autre? Quel papa aurait la mauvaise idée de priver sa fille d'une carte d'anniversaire en l'envoyant à une autre adresse? Pourquoi était-ce plus commode comme ça? Et surtout, comment retrouver cette Hilde?
Non, comment allait-elle faire? Hilde tourna la page et commença à lire le chapitre suivant. Il était intitulé
« Le chapeau haut de forme ».
Elle en arriva au passage où l'inconnu écrit une longue lettre à Sophie. Hilde retint sa respiration.
Le désir de savoir pourquoi nous vivons n'est donc pas une occupation aussi accidentelle que celle de collectionner des timbres. Celui qui se pose ce genre de questions rejoint en cela les préoccupations de toutes les générations qui l'ont précédé. Sophie n'en revenait pas.
Hilde non plus. Son père ne s'était pas contenté d'écrire un livre pour ses 15 ans. Il avait rédigé un des livres les plus étranges et les plus mystérieux qui soient.
En résumé, un lapin blanc sort d'un chapeau haute forme. Parce que c'est un lapin énorme, ce tour de magie prend plusieurs milliards d'années. Tous les enfants des hommes naissent à l'extrémité des poils fins de sa fourrure, ce qui les rend à même de s'étonner de l'impossible tour de passe-passe. Mais en grandissant, ils s'enfoncent de plus en plus dans le creux de la fourrure du lapin. Et ils y restent.
Sophie n'était pas la seule à sentir qu'elle était sur le point de s'enfoncer bien au chaud dans la fourrure du lapin blanc. Hilde avait 15 ans aujourd'hui, et l'heure était venue, elle le savait, de choisir sa voie. Elle lut le passage sur les philosophes présocratiques. Que son père s'intéressât à la philosophie n'était pas en soi une nouveauté, car il avait un jour publié un article dans le journal pour dire que la philosophie aurait dû être une matière obligatoire à l'école. « Pourquoi il faut imposer la philosophie dans le programme ?» s'intitulait l'article. Il avait même osé poser ouvertement la question lors d'une réunion de parents d'élèves. Hilde n'avait plus su où se mettre. Elle jeta un coup d'œil sur sa montre. Il était déjà 7h30. Elle avait heureusement encore une heure devant elle pour suivre les aventures de Sophie et se plonger dans tous ses problèmes philosophiques avant que sa mère ne lui apporte son petit déjeuner d'anniversaire au lit. Elle put lire le chapitre consacré à Démocrite, là où Sophie doit résoudre sa première question. Pourquoi le Lego est-il le jeu le plus génial du monde? Elle trouvait ensuite une grande enveloppe jaune dans la boîte aux lettres.
Démocrite était d'accord avec ses prédécesseurs pour dire que les changements observables dans la nature n'étaient pas la conséquence d'une réelle transformation. Il supposa donc que tout devait être constitué de minuscules éléments de construction, chacun pris séparément étant éternel et immuable. Démocrite appela ces infimes parties des atomes.
Hilde fut fort mécontente quand Sophie trouva son foulard rouge sous le lit. Ah, c'était donc là qu'il s'était caché. Mais un foulard ne pouvait pas juste réapparaître comme ça dans une histoire. Il devait bien se trouver en vrai quelque part. Le chapitre sur Socrate commençait par un extrait de journal que lisait Sophie avec
« quelques lignes à propos du contingent norvégien des Nations Unies »
envoyé au Liban. C'était signé « Papa, un coup pareil ». Toujours à se plaindre du manque d'intérêt manifesté par ses compatriotes sur le rôle pacificateur des Nations Unies. Sophie, elle, n'y couperait pas. C'était au fond une manière comme une autre d'attirer l'attention des médias. Elle ne put s'empêcher de sourire en lisant le post-scriptum de la lettre du philosophe.
Si tu venais à découvrir un foulard de soie rouge, je te prierais d'en prendre grand soin. Il arrive de temps en temps que des affaires changent de propriétaire par erreur. Surtout à l'école ou dans des endroits de ce genre. Et n'oublie pas que ceci est une école de philosophie.